France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Louise Chevillotte. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Jeune de Bastien Lallemand et Elisabeth Spétro. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à Paris, dans les ateliers du musée Grévin, pour nous faire découvrir le processus de fabrication de la statue en cire de Pierre de Courbet-Coubertin. Le tout est réalisé par Margot Page avec Sébastien Royer à la prise de son. Bonsoir Louise Chevillotte.
Bonsoir.
Vous êtes à l'affiche du film Le Tableau volé de Pascal Bonitzer, sorti ce jour en salle. Mercredi dernier était sorti Première Affaire de Victoria Musiette-Lac, dans lequel on peut également vous voir. Je vais profiter de votre venue pour retracer quelques moments de votre encore jeune parcours, mais déjà bien rempli, essayer d'en savoir un peu plus sur vos désirs, sur vos méthodes de travail en matière artistique. Alors, être comédienne, ça n'a pas été une évidence, bien, ou plutôt à cause du fait que votre mère, Cécile Magnier, était elle-même comédienne, issue d'une lignée de comédiennes. Alors, c'est amusant parce que hier, on en parlait avec Calypso Valois, dont les parents, Élie Médéros et Jacquenot, surtout son père d'ailleurs, cherchaient plutôt à l'éloigner du milieu artistique. Est-ce que ça a été votre cas aussi ?
Ce qui est amusant, c'est que ma mère était d'une famille plutôt bourgeoise, avec que des ingénieurs, des médecins, et elle s'est extraite de ça en étant comédienne. Elle s'est faufilée, on va dire. Et du côté de mon père, où les hommes sont plutôt dans des métiers, on va dire, plus conventionnels et classiques, toutes les femmes étaient artistes.
Ah donc oui, c'est une double,
une croisée, et mon père n'est pas artiste du tout. Donc c'est amusant, mais... comment dire, c'est que ma mère, toute ma vie, m'a dit « Oh là là, fais pas ce métier, c'est trop compliqué, trop de déboires, voilà. » Et en même temps, je voyais bien qu'entre mes copines qui avaient des parents profs de physique, chimie, ou je sais pas, ou ingénieurs ou quoi, elle avait l'air de loin la personne la plus libre et la plus heureuse. Donc j'écoutais sagement, hein, avec beaucoup de diplomatie. Et puis un jour, je planquais, et je lui dis « Bah, j'ai envie de faire ça. » j'avais vu Lars Eidinger dans une liberté totale au Théâtre des Gémeaux à Sceaux, dans un Hamlet endiablé. Bon, bah là, j'ai arrêté de planquer. Et elle m'a dit, pas de souci, on t'accompagne.
Ouais. Alors, c'était en effet le déclic. Vous avez quoi, 13, 14 ans au moment de voir ce Hamlet, ouais, mis en scène par Thomas Ostermeyer. Il se trouve que je recevais Lars Eidinger dans cette émission en octobre 21. Alors, on va écouter un petit extrait de Thomas dont il parle. Bien sûr, c'est Ostermeyer.
Je ressens ce moment où les portes se ferment au théâtre, quand le rideau s'ouvre, quand les lumières s'allument, je deviens d'un calme olympien. Je pourrais dire que je suis l'œil du cyclone, où rien ne bouge, où il y a un silence absolu. Et c'est à partir de là que je vais agir. Et ce que je fais aussi avant de monter sur scène, je ne me prépare pas, je reste simple. Voilà, je m'assois et je pose mes doigts sur mes yeux. Et j'essaye d'être dans le moment. Tout en sachant que c'est paradoxal, puisque le moment passe, donc il n'y a jamais de moment, et que le moment est toujours le passé et l'avenir en même temps, mais c'est l'essence même du théâtre. Et c'est dans cet état-là que j'essaye de me mettre, et ensuite je monte sur scène.
Comment est-ce que vous entendez, Louise Chevillotte, ces propos de Lars Eidinger ? Qu'est-ce que vous reconnaissez dans ce qu'il dit ?
Bah, ça me touche beaucoup parce que il met au cœur du métier de l'interprète la question du présent pur. Et c'est la quête. Et moi, je suis une spectatrice invétérée et je suis souvent déçue. Mais si je continue à aller au théâtre, c'est parce que je sais qu'à un moment, il y aura la grâce. Et la grâce, c'est la rencontre entre un public, un texte, un acteur et le présent. Et c'est de l'ordre de la magie, en fait. Mmh. Et donc ça, moi, j'aime y goûter en tant que spectatrice. Alors parfois, on peut nous flouer. Parfois, les acteurs sont dans des espèces de pilotes automatiques et on n'y verra rien. Et c'est aussi un artisanat. Et c'est ça qui est... Moi, j'avais pas de problème avec la fabrication. Ça me touche aussi. Mais en tant que comédienne, oui, ce calme immense avant qu'un rideau se lève, et les rideaux ne se lèvent pas toujours avant que la pièce commence, ouais, c'est comment on va mettre tout en œuvre pour être là. Et bon, là, on parle d'un plateau et du théâtre, mais moi, ça me donne des clés aussi pour vivre. Parce qu'on passe notre vie à être hier, demain, et puis c'est le chemin de la poésie et aussi des textes, mais de tout le temps essayer de nous rassembler, de se dire comment on peut être là où on doit être. Et le théâtre, mais aussi le cinéma à son endroit, sont des moments de rendez-vous ultimes où il s'agit de ne pas passer à côté. Et ça, je trouve que comme profession, d'avoir, de tenter le présent, bah, c'est un miracle. Mmh.
Alors après cette sorte d'épiphanie hein, en voyant Lars Eidinger, comment ces années d'apprentissage, Louise Chevillotte, d'abord avec la compagnie Falaise et Plateau, puis après il y a un an au conservatoire du Centre Mozart en section art dramatique, et puis vous allez suivre le cursus du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, vous allez travailler avec des camarades d'abord, c'est toujours important les rencontres des camarades de promotion, mais puis beaucoup d'artistes, Olivier Ducastel, Marine Canto, François Cervantes, Hugues Jourdain, bien d'autres, mais au conservatoire il y a aussi la possibilité de mettre en scène, et ça on l'évoquera aussi, mais qu'est-ce que vous avez appris là qui vous sert encore aujourd'hui?
C'est une très bonne question. J'y suis entrée jeune, j'avais 19 ans et j'étais dans un désir de jeu absolu, peut-être même un peu volontariste parfois. Et donc, je me souviens, je notais absolument tous les cours, chaque mot dans un carnet. Et j'étais tellement, peut-être pas très au présent pour le coup, tellement à vouloir à ingurgiter, tellement heureuse d'être là, que je pense que j'y avais des choses un peu crispées, ça avait du mal à circuler. Et je me rends compte maintenant, ça fait 10 ans que je suis entrée à l'école. Dans mon parcours d'interprète, d'un projet à l'autre... Des fois, je suis très, très émue de me dire « Ah, d'accord, cette phrase-là, à laquelle je ne comprenais rien et qui me blessait, elle s'est enfin déposée. » Je pense notamment, par exemple, on avait des cours passionnants donnés par Robin Renucci sur la langue. Si je dis pas de bêtises, qui s'appelait « Dire et lire le vers et la prose », hérité de toutes les méthodes de Bernardi, qui est un grand diseur et un grand, on va dire, décrypteur. Mmh. Et qui nous a appris, en fait, par l'intermédiaire de Robin, à se dire qu'un texte est une partition. Et que, comme des musiciens, les interprètes doivent avoir une espèce d'artisanat. Et face à un texte, on a beaucoup de choses dans nos mains pour pouvoir faire entendre au mieux ce que le poète ou l'auteur a voulu nous glisser. Parce qu'il y a énormément d'indices dans les textes. Et j'ai le plaisir souvent de transmettre aussi... Et tout de suite, c'est ce que j'aime transmettre. Mmh. Comment on est autonome face à un texte. Moi, j'adorerais qu'on puisse le faire à l'école publique. Qu'on arrête de nous apprendre Maître Corbeau sur un arbre perché de manière un peu anonnante, parce qu'il y a des miracles dans la langue et il faut des outils. Voilà. Et donc, tous ces outils que j'ai au conservatoire, je les utilise vraiment quotidiennement.
Vous avez gardé vos carnets?
Oui, je les ai relus et franchement, je me suis remerciée d'avoir noté.
Vous avez bien fait.
Alors, j'ai bien fait.
On va certes beaucoup parler de cinéma ce soir, mais vous continuez à jouer très régulièrement au théâtre, donc ça, on va l'aborder. Mais avant d'évoquer cette dimension de la Louise Chevillotte sur les planches, on écoute Delphine Seyrig, qui se souvient de ses débuts. Elle racontait cela sur France Culture en mars 87.
Je crois que quand on commence, c'est arriver enfin à dire des choses qu'on n'a jamais dites et qu'on a peut-être peur de dire. Et sous le nom d'un personnage, on peut dire beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire de face, ni à ses parents, ni aux gens autour de soi. Et le fait d'être acteur est, à mon avis, une façon détournée de dire ce qu'on pense. Et je crois que quand on est jeune et qu'on veut être acteur, c'est plus pour ça que pour donner. Je crois qu'on n'a pas du tout la notion de donner aux autres. Ça, c'est quelque chose qui vient plus tard quand on s'aperçoit que le public reçoit. Alors, à ce moment-là, ça ajoute encore cet autre élément. Mais ce qui fait un peu peur, c'est quand on voit à quel point, quelquefois, les réactions sont graves, sont sérieuses, parce qu'on se dit que peut-être on joue avec eux, et c'est pas non plus... C'est quelquefois troublant, parce que malgré tout, nous, quel que soit l'investissement et la profondeur de nos sentiments par rapport à ce qu'on joue, on est quand même payé pour ça, c'est un métier, et on s'aperçoit quelquefois, avec embarras et avec crainte, que ça va très loin, et qu'il ne faut pas... C'est là qu'il y a un sentiment d'abus. Et ça, c'est angoissant et en même temps c'est curieux cette communication dont on n'est pas content si elle n'existe pas et qui est quelquefois démesurée. C'est le théâtre, c'est une chose qui est difficile à contrôler.
Alors comme souvent ou presque tout le temps, tout ce que dit Delphine Seyrig est toujours passionnant, sur cette dimension de cette responsabilité finalement de l'interprète, comment est-ce que vous l'entendez, Louise Chevillotte?
Tout d'abord, c'est vrai que dès que Delphine Seyrig parle de cette profession étrange qui est celle de comédien, comédienne, elle touche toujours au cœur parce qu'il y a une espèce de paradoxe, hein. Je ne suis pas celle qui l'invente, cette notion du paradoxe du comédien, mais entre... Je pense une espèce d'immense pureté, un élan vers les œuvres qui est souvent, je pense, un élan humaniste ou un élan littéraire, le désir d'aller vers la pensée de quelqu'un qui a écrit. C'est merveilleux de se dire, je vais mettre avec ma voix, mon corps, un personnage pensé par quelqu'un d'autre au monde. Je vais jouer des morts, par exemple. Moi, je suis toujours complètement troublée de me dire, ah oui, Racine a écrit ça il y a 4 siècles et c'était lui dans sa chambre qui a dû écrire ça et je vais mettre ça dans... Voilà,
au présent, on en reparle encore.
Exactement. Et en même temps, il y a cette question du fait d'être regardée, du fait de raconter des histoires, de générer des rêves, notamment d'autant plus avec le cinéma. Et alors peut-être que je m'écarte un peu de ce que dit Delphine Seyrig, mais c'est vrai que cette question de responsabilité, elle met du temps, je pense, à se comprendre. Et alors oui, à un moment, il faut reconnaître qu'on fait un métier d'image. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre parce que j'étais comme une spectatrice un peu, pas boulimique, mais gourmande, on va dire. Et j'étais toujours enthousiaste de voir des histoires toujours plus dingues. Je me rendais pas trop forcément compte des stéréotypes, des choses qui se répétaient. Et puis petit à petit, en découvrant notamment des femmes comme Delphine Seyrig, voilà, en les écoutant aussi, pas seulement comme interprètes, mais en entendant leur travail militant, leur travail de réalisatrice, en lisant d'autres autrices que celles qu'on avait pu me faire découvrir ou à l'école ou même au conservatoire, en lisant des femmes beaucoup aussi, en lisant des sociologues, des féministes, de commencer à déconstruire les images et de comprendre que j'en faisais partie. Et que si à un moment je ne me positionnais pas et que je ne me formais pas à cette école du regard un peu différente, j'allais moi-même en fait être responsable de la perpétuation du même. Et voilà. Et ces choses-là me blessent profondément et je pense qu'elles font du mal à tout le monde. Donc voilà. Aujourd'hui, ça fait partie aussi de mon, on va dire, de ma profession que de penser. Que de penser ce que c'est que de participer à un métier qui véhicule de l'image. Voilà.
Alors à ce propos, vous faites des transitions pour moi, Louise Chevillotte. Vous êtes membre de l'association des actrices, l'ADA. Clotilde M. en fait également partie. Elle était mon invitée le 18 mars dernier alors qu'elle jouait Hamlet. À l'Odéon, on écoute cet extrait.
Je crois que j'ai profondément envie de devenir sujet. Que depuis le début, je crois que j'ai... Voilà, j'ai voulu me conformer à un regard. J'ai plus le mannequinat. Enfin, il n'y a pas un métier au monde où on est plus objectifié que dans ce métier-là. Et ensuite, le cinéma d'auteur, on l'est aussi. J'ai pu, par ailleurs, dénoncer aussi cette, cette forme de droit de cuissage, voilà, dans, sous couvert de d'art, quoi, légitimé par la puissance de l'art, en fait. Et c'est donc oui, je pense que c'est un parcours qui est lié aussi à un contexte social et contexte politique qu'on est en train de revoir aujourd'hui vraiment profondément, en fait. C'est une refonte de la société. C'est pas seulement une mise en rapport, enfin voilà, une lutte contre des pouvoirs et des forces de domination. C'est vraiment une, je pense, on revient de très loin dans en termes de déni. Comment on a pu se construire et qu'il s'agit aujourd'hui, tel Hamlet, de regarder, révéler les crimes cachés, d'être en face de ses propres crimes. C'est un grand mot, hein. Mais quand même, c'est être une sorte de prise de conscience et de pouvoir ensemble essayer de modifier. En modifiant une chose, on peut peut-être changer une société entière.
Alors, vous, pas encore 30 ans, Louis Cheviette, ce sera pour l'année prochaine. On peut encore le dire, à votre âge, bien sûr. Il me semble alors que votre génération, si elle bénéficie, bien sûr, des combats menés par vos aînés, elle a encore beaucoup de chemin à faire pour affirmer un plus grand respect. Notamment, vous avez fait partie des signataires d'une tribune parue en août dans Libération pour dénoncer la culture du viol dans le cinéma. Le chemin est encore long et il faut toujours dire et redire les mêmes choses.
Oui, c'est une espèce d'aller-retour me concernant entre énormément d'espoir, de courage et de puissance. Parce que parler, se rencontrer, partager des expériences et essayer de penser ce métier comme étant un travail et pas seulement un fantasme ou voilà, quelque chose de l'ordre de la para, mais avec des droits, me permet justement de penser ce que c'est que de faire partie de ces images. Et parfois un découragement total. Voilà, je vais... Parce que la société est ce qu'elle est et qu'on a tous été éduqués avec d'autres images, avec d'autres manières de parler et surtout de se taire. Et que tout le monde n'est pas prêt encore à bouger. Mais par contre, moi, la rencontre intellectuelle, artistique et humaine que j'ai avec des femmes comme Clotilde M, Anna Mouglalis et des plus jeunes aussi de ma génération, c'est un bonheur absolu. Parce qu'avant, pour moi, c'était des actrices. Donc, potentiellement, voilà, des collègues ou des rivales. Ou, voilà, on nous avait jamais dit, en fait, qu'on pouvait se parler, qu'on vivait les mêmes choses et qu'il suffisait de traverser la route. Et maintenant, c'est merveilleux, ces filles... de cette association, quand on se croise en festival ou sur un plateau de tournage, avant même de parler du travail, on sait qu'on travaille dans la même voie et on se prend dans les bras. Donc moi j'ai découvert cette année ce que c'était la sororité et il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà.
Alors on revient à votre parcours. Alors transition un peu particulière pour revenir aux années conservatoires, puisque c'est là que vous rencontrez Philippe Garrel, avec qui vous allez tourner à deux reprises dans L'amant d'un jour en 2017, nomination révélation du César des meilleurs espoirs féminins, Le sel des larmes en 2020, deux très beaux films. Alors vous avez eu l'occasion de préciser que vous n'avez subi aucune agression de quelque ordre que ce soit lors de ces tournages, tout en étant solidaire de vos consoeurs qui ont pris la parole pour dire ce qui leur était arrivé à elles. Alors là, on va parler de travail. Louis Cheviot, de création, le système Garrel, on sait qu'il repose sur de longues répétitions, un long travail en amont pour, sur le tournage, faire, la plupart du temps, une seule prise. On n'est pas si loin du théâtre d'une certaine façon, et la question du présent qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. Travailler avec lui, ça vous a obligé davantage encore à être dans le présent?
Ben, c'est vraiment l'étrange équation du cinéma, en fait, où il s'agirait de s'abandonner, d'être pleinement au présent, alors qu'on sait que la pellicule, en l'occurrence chez Philippe Garrel, et le numérique ailleurs, ça dépend des réalisateurs et des réalisatrices, va nous enregistrer, nous capter, nous capturer pour l'éternité.
Toujours.
Donc, franchement, c'est encore un travail que de... Oui, qu'était l'abandon au cinéma. Et je trouve ça pas toujours simple. C'est merveilleux quand ça arrive. C'est une espèce d'extase absolue. C'est enivrant. C'est pour ça que je pense qu'on continue, comme des cinglés, à guetter cette émotion-là. Mais c'est sûr que, en tout cas, quand on fait qu'une seule prise, les battements du cœur, de l'excitation et du stress viennent, on va dire, transformer la prise. Et il y a quelque chose, d'un peu particulier. J'ai aimé ça. Mais je connaissais pas autre chose. C'était les premiers films que je faisais. J'étais très surprise. Après, j'ai fait un film avec Nadav Lapide.
Synonyme.
Voilà, qui s'appelle Synonyme. Et donc, j'ai fait ma première prise. Et puis, je suis partie. Et il m'a couru après en me disant, mais où vas-tu? J'ai dit, c'est bon. Il m'a dit, non, c'est pas ça le cinéma. Et je pensais, du coup, que le cinéma, c'était faire qu'une prise.
Ouais.
Mais donc, c'est bien. C'est des écoles aussi. Et j'en suis bien sûr empreinte. Après, chaque expérience va transformer et on va créer une espèce de grande boîte à outils. Des fois, j'ai l'impression que je suis un atelier d'ébénisterie, quoi. J'ai mes rabots, Après, c'est génial aussi quand j'ai plus de savoir-faire et que j'arrive à tout oublier.
Alors justement, il y a eu Nadav Lapide, il y a eu Paul Verhoeven, il y a eu Luda Bensalah-Casanas, il y a eu Audrey Diwan, il y a eu Jérôme Bonnel, pour citer quelques noms des cinéastes avec lesquels vous avez travaillé, Louis Cheviotte. Et c'est vrai que on va parler de la suite dans un instant, mais justement, au fil des tournages, quoi, vous remplissez votre trousse à outils, c'est ça? Vous nourrissez des différentes méthodes, parce que forcément, chaque cinéaste a sa méthode.
Ça dépend en fait. Il y en a qui arrivent avec beaucoup de précision, des désirs très serrés, cadrés, et puis d'autres qui vont être là, faits. Et puis c'était Paul Verhoeven par exemple. Moi j'étais arrivée un peu en tremblant au rendez-vous et qui m'avait dit fais ce que tu veux, et puis si ça va pas, je te dirai. Et paradoxalement, je me suis jamais sentie aussi libre. Puis j'étais pas vieille, hein. Franchement, je me dis quelle élégance de la part d'un réalisateur si confirmé de faire confiance à une jeune femme comme ça. Donc c'est j'apprends, puis je désapprends, puis je réapprends. C'est toujours nouveau, pour de vrai, ça c'est sûr.
Alors, on va bientôt en venir à cette actualité de ce film de Pascal Bonitzer. Avant cela, on a encore deux arrêts à faire. Le premier concerne votre choix musical, Louis Cheviotte, qui s'est porté sur une artiste que j'ai eu le plaisir aussi de recevoir dans cette émission, Léonie Pernet. On va écouter dans un instant le morceau « Il pleut des hommes », extrait de l'album « Le cirque de consolation ». Alors, pourquoi ce choix?
Parce que c'est une musicienne que j'adore, dont j'aime énormément la musique, qui est très littéraire aussi, qui a vraiment un goût prononcé pour le poème. Et qui, je pense, est l'une de celles aujourd'hui qui continue à affirmer que dans l'obscurité et dans la complexité du sens, peut s'y trouver une clarté. Et j'aime ce courage et j'aime cette ambivalence-là. Voilà. Pour moi, c'est une vraie foi aujourd'hui que de continuer à revendiquer le poème. Et en plus, c'est une musicienne plus que confirmée et passionnante. Donc, j'aime énormément son travail.
On l'écoute.
Le noir et blanc s'affrontent.
Il pleut des hommes de Léonie Pernet, choix musical ce soir de Louise Chevillotte. Il pleut des hommes, alors c'est des paroles qui auraient pu convenir pour parler du film de Lucie Borloteau, À mon seul désir,
tout à fait.
Dans lequel vous jouiez le personnage de Manon, étudiante à Paris, qui avait du mal avec sa coloc, mais qui n'avait plus d'argent et qui donc vit très précaire et qui se décide un jour à entrer dans cette boîte de striptease appelée À mon seul désir, qui demande à faire un essai. Bon. C'est sous le pseudonyme d'Aurore qu'elle va officier dans le club, tout en se liant avec sa collègue Mia. Mia, c'était Zita en rôle dans ce film que je recevais au moment de la sortie de ce film. Écoutez cet extrait de notre entretien.
C'est vrai que d'accepter un personnage comme Mia, ou je sais aussi pour Louise Chevillotte, parce qu'on a beaucoup discuté, d'accepter un personnage comme Aurore, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin d'accepter de se déshabiller devant une caméra et de jouer de ça, du désir qu'on suscite, du regard de la caméra, du regard de la réalisatrice,
du regard du personnage aussi, ouais, parce qu'Aurore, c'est quelqu'un qui regarde.
Ah ouais, Aurore, bah, en fait, le personnage de Mia, je veux dire, elle existe en dehors du regard d'Aurore, mais en fait, à un moment, Mia dit à Aurore, c'est la première fois que je me sens regardée comme ça, ou que je suis regardée comme ça. Et c'est vraiment, je pense, une des clés du film aussi. Parce que Mia a la place de se déployer et de parce qu'il y a ce regard-là aussi qui est posé sur elle et qui la libère encore plus, parce qu'elle est quand même, finalement, elle est assez libre, Mia. Elle est plus libre que moi, peut-être. Parce qu'en fait, elle est plus libre, peut-être, parce qu'elle assume aussi plus de choses, qu'elle assume plus ses désirs. En fait, c'est drôle, ce film, pour moi, c'était un lieu, un espace secret, quoi. Souvent, je parle de mes projets à ma famille. Voilà, j'en parle, je suis assez OK pour en parler. Et ce film, je sais que s'il y a quelque chose comme ça, c'est pour moi, c'est un peu un espace secret, même s'il va être vu. Mais je sais pas, c'était mon territoire, quoi. Ouais.
Alors, ce film, pour vous, Louise Chevillotte, ce film À mon seul désir, quelle importance il a eu dans votre parcours?
Il a eu une importance fondamentale, peut-être même au sens de fondation. On parlait tout à l'heure de la question d'être sujet, d'être objet. En m'attaquant, on va dire, à ce défi de jouer une fille qui s'essaye au striptease, donc au dénuement, à la revendication de son désir, à l'érotisation de son corps affirmé, ça a été pour moi le point de bascule. Je pense que j'ai été sujet par le passé dans des films, j'ai été objet, peut-être sans le conscientiser plus que ça. Mais ce film m'a appris que je n'étais pas seulement regardée, mais que moi aussi j'avais le droit de regarder. Et je crois que ça a été un bouleversement profond et qui m'a fait repenser complètement mon métier dans sa globalité. Au théâtre, on fait semblant que le spectateur n'est pas là, souvent, quand il y a le quatrième mur. Au cinéma, on nous dit « voilà, oublie la caméra ». Donc on passe notre vie à travailler en faisant abstraction de la personne pour qui on va le faire, qui sera le spectateur. Et là, ces filles, dans ces clubs de striptease, certes sont regardées, mais bien plus, elles regardent. Et la personne qui, finalement, est déshabillée, c'est le spectateur. Et donc, le gain de puissance et de pouvoir que j'ai obtenu en affirmant qui j'étais, le corps que j'avais, en ayant de la liberté aussi, on a pu improviser, on a pu écrire des numéros, en ayant une pleine confiance avec la réalisatrice Lucie Borlotto, qui était beaucoup dans ses cadres, dans notre dos, c'est-à-dire qui se mettait du point de vue des stripteaseuses. Enfin, voilà, de penser toute la mise en scène et notre incarnation comme une voie d'émancipation et d'une inversion du regard. Voilà. Et donc là, je peux vraiment dire que c'est la première fois de ma vie où j'ai été pleinement sujet. Et c'est pareil, c'est comme avec la sororité, il n'y a pas de retour en arrière. J'y ai pris goût et je n'y renoncerai plus.
Alors ça nous amène finalement assez naturellement à regarder, être regardé vers ce film de Pascal Bonitzer, Le Tableau Volé, qui est sorti en salle ce matin. Je dis tout de suite, ce film est un bijou à tout point de vue. Alors on peut dire, sans que l'expression soit ici galvaudée, que c'est un film choral, parce que chaque personnage a une belle place, une place précise. Alors je résume un tout petit peu, il y a André Masson, oui, comme le peintre, ici de Pascal Bonitzer, interprété par Alex Lutz, qui est commissaire-priseur, grande maison de vente, aux enchères, qui reçoit donc un courrier qui lui dit qu'il y a une toile d'Egon Schiele qui a été découverte un peu par hasard dans une maison à Mulhouse chez un jeune ouvrier, interprété par Arkady Radev, qui est une très belle révélation. Sa mère est jouée par Laurence Scott, c'est une comédienne que j'adore et qu'on voit trop peu, donc je suis très heureux de la voir dans ce film. Sur place à Mulhouse, il est aidé par une avocate jouée par Nora Hamzaoui et par son ex-femme, je parle d'André Masson. L'ex-femme, c'est Léa Drucker, qui fait le même métier. Et André a donc une stagiaire. Une stagiaire pas commode, Aurore, tiens, encore une Aurore,
et oui.
Que vous incarnez, Louise Chevillotte, qui semble avoir pas mal de problèmes à régler, et notamment avec son père, joué par Alain Chamfort, qui est formidable également. Comme je disais, donc, ça fait du monde, du beau monde en l'occurrence, et l'une des grandes qualités de ce film, c'est que chacune et chacun existe pleinement, alors même que le film ne dure que 1h30. Bon, mais ça, c'est le talent de Pascal Bonitzer. Hein. Comment est-ce que vous êtes approché, vous, du mystère d'Aurore? Est-ce que vous avez votre cuisine personnelle? Est-ce que vous écrivez, inventez une biographie de votre personnage? Ou est-ce que le scénario, c'est pour vous la Bible? Ou ce que vous dit le metteur en scène, en l'occurrence Pascal Bonitzer?
Ça dépend des rôles.
Là, pour celui-ci,
c'est vrai que c'est un rôle très mystérieux. Je pense qu'elle doit... Elle doit avoir un bon psychanalyste ou elle doit dépenser pas mal d'argent ou très mauvais. Voilà, donc je dévoile pas grand-chose en disant qu'elle est vraiment mythomane. Donc, elle affabule en permanence. Donc, pour aimer son personnage, il faut trouver une porte d'entrée. Pourquoi ceux qui mentent. Voilà, qu'est-ce que ça raconte le mensonge? C'est quoi la vérité? Et qu'est-ce qu'elle va venir secouer en racontant ses craques en permanence dans un monde aussi cadré et conduit par l'argent que les maisons de salles des ventes et du marché de l'art? Voilà. Alors oui, moi, ma cuisine. Je me suis racontée, après les gens se raconteront ce qu'ils veulent, bien sûr. Je suis la fille donc, du personnage joué par Alain Chamfort dans le film, qui était lui-même, dans ce milieu-là, un homme qui réussissait, qui avait un commerce florissant et qui a été complètement déclassé. Ils ont tout perdu. Et donc, je me suis racontée une espèce de transfuge à l'envers. Voilà. Peut-être une violence sociale... ne pas supporter l'hypocrisie et la violence qu'elle voit dans tous ces gens qui passent leur vie à faire du business et qu'elle ne supporte pas. Et à la fois, on a envie de s'en approcher et en même temps, on a envie de tout casser. Et c'est ce qui me plaisait beaucoup dans ce personnage parce que le biais qu'elle choisit est complètement étrange, loufoque et vraiment jouissif à jouer. Elle est vraiment amusante. Et en même temps, ce qu'elle vient dénoncer à sa manière, je le partage pleinement.
voilà, une franche colère pour ce qui ne dit pas son nom. Mmh. Voilà, la domination.
Mais est-ce que l'argent, c'est encore plus sale quand il s'agit de... quand il est dans le monde de l'art ?
Ha ha ! Ça, en plus, vous demandez ça à une artiste. Oui, est-ce que l'argent est vulgaire ? Vaste question. À ces niveaux-là, moi, de toute façon, je trouve que dépasser un certain chiffre qui est bien trop bas pour ce que penseraient les autres, je trouve que l'argent est en dehors de la morale.
Mais ça n'a plus de sens.
Ça n'a plus de sens, mais parce que je suis très ouvertement d'extrême gauche et que je pense que à un moment, on a perdu la tête. Mmh. Voilà. Donc oui, des toiles qui montent à ces prix-là, je pense que Egon Schiele et Van Gogh doivent nous regarder avec des yeux de merlan frit en se disant « Mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête ?» Voilà. Le cinéma est aussi un art qui coûte cher, c'est une industrie. Mmh. Bon, alors, je serais bien naïve de dire qu'on peut faire sans. Pour l'instant, dans ce monde-là, on a besoin d'argent, les artistes ont besoin de travailler, faire des œuvres coûte un certain prix. Voilà, oui, bah je rêve d'un monde où ça circule plus, ça c'est certain.
Pour ce personnage d'horreur, encore une fois, bon, très énigmatique, est-ce que vous avez des questions à poser à Pascal Bonitzer ? Est-ce qu'il y avait sur certaines scènes des indications que vous alliez lui demander ?
Oui, et il y a une chose qui me plaît particulièrement avec Pascal Bonitzer, c'est son goût du scénario. Donc il a longtemps écrit avant de réaliser. Il a été longtemps critique aussi, donc je pense qu'il a une espèce d'acuité pour la précision, le détail et un goût de ça. Ce qui fait que la moindre petite phrase, le moindre détail, on peut venir ou le mettre en discussion ou essayer de creuser plus loin. Et il adore ça. Et ah ouais, moi, je me suis régalée parce que je me suis vraiment dit « Ah, voilà un bel exemple ». De deux artistes de générations complètement différentes, qui ont un rapport au monde très différent, qui peuvent se parler et qui peuvent se déplacer. Mmh. Je peux vraiment dire que je l'ai déplacé, sans rougir, et il m'a vraiment déplacé. Et c'est là où la rencontre artistique est merveilleuse. Donc, aussi dans le jeu, il me disait des choses très très concises, précises, et toujours dans le mille. Donc, vraiment, je pense que si c'est une choralité heureuse et aussi affirmée et réussie, c'est aussi parce qu'il y avait un chef d'orchestre tellement, tellement minutieux et amoureux de ses personnages. Non, vraiment, c'est un homme délicieux.
Alors, j'ai cité certains de vos camarades de jeu. J'ai oublié Olivier Rabourdin. Il est peu présent, mais je trouve toujours une présence folle à l'écran.
Oui, aussi.
Voilà. Mais alors, moi, je considère Alex Lutz, sans doute aussi avec Benoît Magimel, comme les deux meilleurs comédiens travaillant actuellement en France. Je trouve que Léa Drucker, elle est dans le top 2 ou 3 aussi, pareil, des côtés comédiennes. Qu'est-ce que ça produit sur l'encore jeune interprète que vous êtes de travailler avec des athlètes de haut niveau, des artistes de ce niveau-là ? Est-ce que vous le vivez comme ça ? Oh là là, je joue avec Alex Lutz, qui est quand même d'une précision, il me fascine. Léa Drucker, pareil. Hein.
Exactement. Je le vis comme une chance. J'ai l'impression que je suis la spectatrice numéro 1. C'est-à-dire que avant que des gens vont nous regarder, moi je les regarde. Moi je suis un vampire discret, voilà.
Pas mal.
J'adore regarder comment ils font, par où ils passent. Et généralement, notamment pour des acteurs et des actrices comme Alex Lutz et Léa Drucker, eux le présent, mais c'est leur voiture, quoi. Je sais pas comment ils font. Voilà, ils grimpent dedans. c'est l'autoroute. Et en fait, c'est le cas des très grands acteurs, c'est qu'ils donnent du jeu. Comme ils sont pleinement là, pleinement avec nous et en générosité totale, bah ça devient presque facile. Voilà, ils sont dans. C'est une danse après.
Ils rendent les autres meilleurs.
Ah, je trouve vraiment. Mmh. Voilà, je pense que vraiment les grands acteurs font jouer les autres mieux. Mmh. Et d'ailleurs, on les remercie. Hein.
Nous, surtout spectateurs, on peut beaucoup les remercier. Alors, encore une fois, sur le tournage, on rappelait les premières expériences Garrel, une seule prise. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt du genre à avoir une idée à proposer au départ et ensuite proposer des variations ? Ou est-ce que là, on dirait que ça dépendra des cinéastes, mais sur le tableau volé, par exemple, est-ce que vous aviez plusieurs propositions à chaque fois ?
Alors moi, je suis une laborieuse, hein, j'envoie des mails.
C'est vrai ?
Donc je décortique mon scénario, je marque des hypothèses, puis j'envoie le dimanche
un mail pour toute la semaine. Oui, j'aime bien être en connivence avec le metteur en scène. J'aime faire des surprises aussi, mais quand je sens qu'il y a l'espace. Et sinon, oui, j'aime bien discuter et après, comme ça, je me sens pleinement libre au moment de la prise. Voilà.
Alors, j'ai... Ouais, on entend bien cela. Alors, j'évoquais quand même tout à l'heure le fait que vous avez fait de la mise en scène au conservatoire. Il y a aussi des projets dans les tuyaux. Réaliser un film, est-ce que ça ferait partie de vos désirs, Louise Chevillotte?
Eh bien, c'est fou que vous en parliez parce que ça fait des années que je rêve de réaliser une fiction, parce que dès que je rencontre un acteur, une actrice que j'aime, je me dis, oh, il faut absolument que j'écrive une histoire pour le filmer. Comme une espèce de plaisir fou de poser le regard sur l'autre. Mais j'avoue que mes idées de scénario souvent sont un peu bancales, vont pas très loin. Donc c'est pas l'endroit. Mais par contre, ça fait 2 ans que je me suis lancée dans une aventure, on va dire, un peu expérimentale, intime et métaphysique, qui est...
Ça commence bien, roulement de tambour.
En fait, c'est tout à fait expérimental et artisanal. Je réalise un documentaire, voilà, qui est produit d'ailleurs par Apsara Film, donc qui produisait le film de Lucie Borlotto, À mon seul désir. Donc ça me touche, c'est comme des fidélités qui se déplient, c'est encourageant. Voilà, donc c'est un travail très humble, hein. C'est un premier film que j'ai fait toute seule, caméra au point, on va dire, un peu la Delphine Seyrig, en inventant un petit système technique que des copains techniciens m'ont conseillé. Et c'est une révélation. C'est-à-dire que poser la caméra, voilà, et écouter quelqu'un, recueillir une parole... Enfin, vraiment, maintenant, je me rêve actrice et documentariste. Enfin, je me sens un peu à une croisée des routes en ce moment, à un carrefour où j'aime passionnément mon métier. Mais ça me fait penser à ce que disait Delphine Seyrig sur le fait de se raconter soi. Ben, je me suis beaucoup racontée à travers les autres et je crois que j'ai maintenant aussi envie de me raconter à travers mon propre regard et ma propre parole.
Ah ben, vous allez faire les deux, Louise Chevillotte. Suis convaincue. Le tableau volé de Pascal Bonitzer sorti aujourd'hui en salle. Et puis on peut vous voir aussi dans Première Affaire de Victoria Musée de Lac qui est sorti mercredi dernier. Merci d'avoir été notre invitée, Louise Chevillotte.
Avec grand plaisir.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
En ce jour du 1er mai, l'occasion est belle de lire ou de relire Le droit à la paresse de Paul Lafargue, pamphlet contre l'amour du travail. À défaut d'une audacieuse mise en chanson de ce texte révolutionnaire, il est possible de se laisser porter par les vers que Bastien Lallemand et Elisabeth Spétro récitent sur leur album La paresse, qui est sorti vendredi dernier sur le label Zamora. En 10 morceaux désinvoltes, l'auteur, compositeur, interprète Dijonais et son ami d'enfance racontent l'histoire d'un couple au rythme de textes succincts et colorés. À cet horizon de langueur se sont joints des amis de Bastien Lallemand, J.P. Nataf, Mock et l'inévitable Babix, mais aussi Albin de la Simone qui est venu donner un coup de main au synthétiseur sur Jeune, un titre emprunt, on va l'entendre, du sentiment de jalousie. C'est notre son du jour. Ce sera la nouvelle sensation.
sera son odeur, son goût, sa peau. Rien que pour toi, tout beau, tout chaud. Je suis dépassée, bonne à compter ce printemps. Regardez faire. Impossible de lui résister. C'est un bouton de rose, un tout petit jeton, ton personnage.
C'était Jeune de Bastien Lallemand et Elisabeth Spetro.
France Culture, Le Grand Tour, Grand Tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je viens d'arriver dans l'atelier du musée Grévin, ce musée parisien qui présente des statues de cire, de personnages historiques ou encore de célébrités. Et aujourd'hui, nous assistons aux dernières retouches du nouvel arrivant, le baron Pierre de Coubertin.
Bonjour.
Bonjour. Donc, je suis Véronique Bérex, en charge des relations extérieures de Grévin. Et bienvenue ici, dans le 13e arrondissement, où nous avons en fait nos ateliers de création des personnages.
Donc c'est ici que travaillent les sculpteurs et tous ces artistes qui créent ces sculptures de cire qu'on va voir après au musée.
Totalement, parce que la création d'un personnage demande environ 6 mois de travail. Et tout part, surtout quand la personne évidemment ne pose pas, de photos, de documents photographiques, de recherches, de renseignements littéraires également sur la personne. Et le sculpteur démarre donc un modelage en plastiline. Et ça, je pense qu'il pourra vous en parler. Et ensuite, il y a toutes les étapes, moulage, ensuite coulage de la cire, implantation des cheveux qui sont des cheveux naturels, de la moustache quand c'est le cas. Là, en l'occurrence, pour Monsieur de Coubertin, c'est le cas. Il a une magnifique moustache. Et puis ensuite, il y a tout le maquillage qui se fait à la peinture à l'huile.
Alors cette statue, on va pouvoir la voir quand au musée Grévin ?
Eh bien écoutez, dès le 19 juin au matin, les visiteurs de Grévin pourront le découvrir en début du parcours où sont représentés tous les sportifs.
J'ai hâte de voir ça. Vous nous emmenez dans les ateliers ?
Allez, allons-y.
Merci beaucoup.
Alors, vous êtes prête à découvrir le modelage, hein,
alors,
la première étape.
Voilà.
Allons-y, nous allons rencontrer Klaus Welt, qui est le sculpteur donc en charge de la réalisation du personnage du baron de Coubertin. Et dans cet atelier, bien sûr, donc Klaus Welt, qui est ici, mais il y a aussi d'autres personnes qui travaillent, Estelle Mutel à l'implantation des cheveux, Émilie Charbonnet également à la coiffure. Là, elle est en train justement de coiffer le personnage de Pierre de Coubertin. Mais je vous laisse tout de suite quand même avec Klaus Welt.
Merci. Bonjour.
Bonjour.
Alors là, on se trouve devant un socle et devant une tête que vous êtes en train de modeler.
Oui, en fait, c'est sur ma sellette, là, c'est la tête de Pierre de Coubertin. Là, je suis en train de finir, en fait, le travail. Et là, je suis en plastiline. C'est une sorte de pâte à modeler, un peu plus sophistiquée. C'est un modelage.
Un modelage d'après quoi ? Parce que évidemment, le baron ne peut pas poser,
oui,
il est mort depuis longtemps.
On utilise dans ces cas, comme c'est le cas des personnages historiques, donc on travaille uniquement sur des documents qu'on peut trouver.
Photos, documents, ah oui voilà, par exemple là il y a une photo. Et donc c'est à partir de ce modèle-là que vous allez créer
Il faut quand même essayer de trouver, on a ici une photo de face, c'est l'image la plus connue de lui en fait.
Il a quel âge là à peu près ? C'est un jeune homme ?
Oui, il a la trentaine. Mmh. Et par contre, il faut toujours essayer de trouver d'autres vues pour construire les visages, parce qu'une vue de face, ça suffit pas. On peut pas mesurer la chute du nez, la profondeur du nez, la profondeur des yeux, le menton, l'avancement, tout ça. Bon.
Ah oui, donc il vous faut des profils.
Bah, idéalement, ouais. On n'en trouve pas toujours. Ou alors, c'est pas le même âge, par exemple. Là, il y a des profils trois quarts de lui, mais vieux. Donc voilà, donc c'est un peu c'est une forte interprétation, on va dire.
Et là devant nous, elle est quasiment finie. Ce visage.
Oui. Alors aussi, ce qui est compliqué, c'est quand on a un personnage comme ça. C'est compliqué. En même temps, ça facilite la tâche. Il a une grande moustache, typique pour l'époque. Donc évidemment, ça s'ajoute pour la ressemblance. Voilà. Donc ce sont des petites choses comme ça. C'est
combien de temps il vous le faut pour modeler une tête?
Ça dépend, ça peut aller assez vite des fois, plusieurs semaines quand même, sans en être dessus tout le temps non plus. Hein. C'est pas un travail qu'on fait 8 heures d'affilée, hein. c'est par touche en fait.
Vous en avez sculpté beaucoup des statues du musée Grévin?
Entre 180 à peu près.
Je ah oui,
pas
vraiment
exactement.
Beaucoup.
Ouais. Oui, j'en ai fait beaucoup. Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous dérange en plein travail, mais là, vous êtes en train de coiffer le baron de Coubertin.
Oui, exactement. Là, je lui fais une pré-coupe pour voir si l'implantation est correcte, voir si le sang des cheveux, le mouvement va bien s'emboîter en fait pour la coiffure.
Et comment ils sont implantés, ces cheveux ?
Alors, ils sont implantés à l'aide d'une aiguille. On va couper le chat d'une aiguille, ce qui va nous créer une fourche. Avec cette fourche, on va prendre le cheveu et on va l'implanter à l'intérieur de la cire qui est un petit peu chauffée pour la ramollir. Une fois qu'on l'a insérée dans la cire, on va prendre un petit ébauchoir et refermer en fait ce trou, lisser en fait la cire, bien sûr faire attention de ne pas faire de creux et emprisonner ce cheveu à l'intérieur de la cire, ce qui nous permet de le coiffer, de le couper, de pouvoir le tirer. Même après, on peut faire
des brushings,
des décos, des boucles. On peut faire tout ce qu'on veut, comme un cheveu normal, vu que c'est du cheveu naturel.
Alors c'est ça, ce sont des vrais cheveux ?
Oui.
D'où ils viennent, ces cheveux ?
Alors, il y a des sites, il y a des personnes qui vendent du cheveu. Après, on utilise aussi, nous, on appelle des bébillères. Ce sont des tout petits cheveux, en général, qu'on récolte sur nous quand on se coupe les cheveux ou comme on coupe les cheveux à des amis. Voilà, des petits cheveux naturels qu'on récupère comme ça. Tout est utilisé.
Pour faire de la masse,
barbe,
pour faire,
oui.
C'est vraiment aussi, très naturel. Il y a des cheveux, mais il y a une énorme moustache. Là.
Oui, voilà. Alors ça, on va utiliser du crépé, hein, du crépé de cheveux, hein, où on va vraiment permanenter très fort le cheveu pour avoir cette rizure particulière qui est vraiment propre aux barbes, aux moustaches.
Merci beaucoup. Je vais vous laisser continuer votre coupe.
Merci.
Bonjour, je suis Alexandra de Navacelle de Coubertin. Je suis une arrière-arrière-petite-fille de la famille de Pierre de Coubertin.
Quelle impression ça fait quand on voit son ancêtre, son arrière-arrière-grand-père, là, en statue de cire, bientôt au musée Grévin ?
Alors, tout à fait honnêtement, c'est très émouvant parce qu'on ne l'a jamais vu en personne. On est la quatrième génération, donc là, c'est vraiment un moment très touchant de l'incarner en chair et en os, avec une énergie, avec des yeux pétillants. Donc, très émouvant.
Vous disiez tout à l'heure, je vous entendais dire qu'en fait, le cœur de Pierre de Coubertin était lui aussi conservé dans un endroit un peu particulier.
Absolument, c'est une chose qui n'est pas très connue. Donc en effet, quand il est mort, il a demandé à ce que son cœur soit déposé à Olympie. Donc il existe une stèle où repose son cœur. Donc c'est vraiment au pied des sites antiques de l'époque, un lieu qui est assez magique parce que vous avez encore les colonnes, vraiment l'architecture qui est encore très présente. Et c'était son souhait. Son cœur, pour lui, avait toujours été à Olympie. C'était son rêve de faire revivre ces Jeux antiques. Donc on peut aller visiter là-bas.
Mais donc la flamme là, pour les JO de Paris vient de s'allumer. Les premiers porteurs de flamme viennent de partir de Grèce. Ça veut dire qu'on passe devant le cœur de Pierre de Coubertin ?
Exactement, c'est vraiment un rituel très touchant. Donc le 16 avril, le début de la flamme et qui a été allumée à l'ancienne avec la vasque et le soleil, exactement, qui vient allumer la flamme. Le premier coureur donc prend la fameuse torche et le premier arrêt, c'est sur la stèle de Pierre de Coubertin. Donc c'est très touchant, c'est vraiment le premier arrêt, le premier stop. Donc il y a un hommage très symbolique au fondateur des Jeux modernes.
Aujourd'hui, comment la famille de Coubertin s'investit dans les Jeux olympiques à venir, par exemple ?
Alors la famille est très investie parce que depuis sa mort, plus précisément depuis qu'il a quitté le CIO en 1925, il avait demandé à quelqu'un de la famille d'être garant de sa mémoire au CIO, donc de rester présent pour être sûr que son intention, son vœu, son souhait reste propre à l'origine, à ce qu'il avait envisagé. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé ce rôle de génération en génération et on collabore avec le CIO pour faire des projets culturels et promouvoir les valeurs de l'olympisme.
Est-ce que vous avez l'impression que l'esprit des Jeux, celui insufflé par votre ancêtre, existe toujours aujourd'hui ?
Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'il est beaucoup moins apparent. Je pense qu'on entend surtout parler des médailles, des grands sponsors.
Et des performances.
Cependant, c'est vrai que la philosophie à l'origine, c'est-à-dire cette réunion internationale entre tous les peuples du monde, cette réunion aujourd'hui, c'est la plus grande réunion mondiale qui existe. Il n'y a pas d'autres moments, d'autres occasions pour réunir 206 nations avec des pays qu'on ne connaît pas, comme par exemple les îles Salomon, et qui ont la chance de, pour la cérémonie d'ouverture, marcher avec la même attention que les États-Unis, la Chine, ces grandes superpuissances.
Merci beaucoup.
De rien, merci.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Eh bien demain, Arnaud, direction le désert saoudien. Nous visiterons l'un des théâtres les plus fous et les plus instagrammables du monde et ce sera à Alula.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.